Passion d'écrire, plaisir de lire. Jean-Claude Delaire sur RVB.
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui nous vient d'assez loin. Elle vient d'Azera. C'est pas tout proche de Bergerac, mais c'est en Dordogne, bien sûr. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Elle s'appelle Françoise Rivière. C'est une auteure, puisqu'il faut parler politiquement correct aujourd'hui. Et c'est une romancière. Et j'ai lu son dernier ouvrage qui s'appelle Si seulement. Nous allons en parler au cours de cette émission, mais d'abord nous allons faire connaissance. Bonjour Françoise.
Bonjour Jean-Claude Delaire. Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci également à Radio Vallée Bergerac.
Eh bien écoutez, c'est un plaisir pour nous aussi, bien sûr, puisque la radio n'existe et cette émission existe, passion d'écrire, plaisir de lire, parce que nous avons des auteurs qui se déplacent, qui viennent nous voir et qui dialoguent avec nous. C'est ça l'intérêt. Merci aussi à vous. Vous venez d'Azera, mais si j'ai bien compris, en aparté, on en a un peu parlé, vous n'êtes pas d'Azera même, vous n'êtes pas de la région même peut-être.
Non, pas du tout. En fait, je suis née à Saint-Étienne, je suis une Stéphanoise, j'y ai vécu 22 ans, puis après je me suis déplacée sur Lyon, Lille, Paris, et nous sommes revenus sur la Dordogne il y a une dizaine d'années.
D'accord. Et là, vous êtes installée, on peut dire définitivement.
Ah oui, tout à fait. La région est belle, elle nous plaît énormément et nous vivons dans un havre de paix, ce qui me permet d'écrire.
D'accord. Vous êtes en pleine campagne.
En pleine campagne. Le premier voisin est à 1 kilomètre de chaque côté de notre maison.
Bon, ben c'est bien. Donc, vous aimez la nature.
Énormément.
Vous vous consacrez à elle.
Tout à fait.
Et vous écrivez. Alors, une première question. Quelle est votre origine, votre formation? Vous venez d'où, en définitive,
Madame Rivière? Je viens de la Loire. Mes parents, mon père travaillait dans une banque. Donc, un milieu assez aisé malgré tout, pas au début, mais au moment où j'étais adolescente, disons qu'il était assez aisé. Nous sommes 4 frères et sœurs. Mes études, j'ai terminé au niveau du bac, j'ai arrêté. Par choix personnel, je voulais travailler. Je n'ai pas d'études, je dirais, littéraires particulières. Disons que cette envie d'écrire m'est venue soudainement.
Et chez vous, est-ce que vous étiez dans un milieu qui était, on peut dire, cultivé, intéressé
ou... Oui, disons que mes parents aimaient beaucoup lire, énormément. D'ailleurs, maintenant, ils peuvent lire, parce que j'ai la chance de les avoir encore. Bien qu'ils aient 85, 86 ans, c'est merveilleux. Et ils aiment toujours autant lire. Ils dévorent, ils dévorent, ils dévorent. C'est eux qui m'ont appris à aimer lire. Je n'aimais pas du tout lire. Je lisais les gros pilotes, les bandes dessinées. Il y a 14 ans, j'ai été malade. Enfin bon, peu importe. Mais disons, alité pendant plus d'un mois. Et maman m'a amené des livres. Et j'ai découvert ça. J'ai même passé des nuits blanches, moi qui n'aimais pas lire, à lire.
Et vous vous souvenez de titres particuliers, d'ouvrages qui vous ont marqué
ou... Oui, j'en ai deux, je dirais. Le journal d'Anne Frank. Je ne pourrais pas vous dire... Je vais le relire d'ailleurs, parce que j'y ai pensé. Je vais le relire à nouveau. C'était très poignant. Enfin, beaucoup de...
De sens, oui.
Voilà, tout à fait. Et le Chapelier son château aussi, de Cronin. J'avais adoré son premier livre, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé aussi.
Donc c'est très éclectique.
Ah, très.
C'est très éclectique.
Ah, tout à fait.
Voilà.
Oui.
Et donc, à partir de l'adolescence, on peut dire, ou de l'après-adolescence, vous êtes mis à lire. Et là, vous avez continué à lire toute votre vie.
J'ai arrêté, ça fait 2 ans et demi.
Oui.
Disons, depuis que j'ai commencé à écrire. Et là, je ne lis plus. Si, occasionnellement, parce que je lis un petit peu entre deux, mais je lis des livres que j'ai déjà lus. Mais sinon, avant, je dévorais. C'était, je sais pas, un livre tous les 2 jours, quoi. C'était. Mais depuis que j'écris, pour l'instant, je ne lis plus. Je ne lis plus parce que je veux pas me faire, comment dire, je voudrais pas prendre les idées des autres. Je sais pas si je m'exprime bien. Je pense que
si,
je vais
relire. Mais je vous entends bien. C'est-à-dire, vous ne voulez pas être influencé.
Voilà.
Et vous, bon, vous avez envie d'écrire ce qui sort de vous, quoi.
Voilà, hein. Tout à fait.
Mais en sachant tout de même que quand on écrit, évidemment, on n'invente rien. Vous le savez
bien. On est bien d'accord.
Que ce soit en termes de thématique ou que ce soit en termes... Alors, il y a le style qui peut changer, bien entendu, les gens. Mais c'est vrai que tout existe déjà. Et ce qui fait, d'ailleurs, cet aspect formidable, c'est comme la ressemblance entre les individus. Nous sommes tous à peu près identiques, on pourrait dire.
Oui.
Mais nous avons des particularismes qui font que nous sommes très différents les uns des autres. Et au niveau de l'écriture, c'est ça qui est essentiel aussi, c'est qu'on peut écrire de la poésie depuis le début de l'écriture jusqu'à aujourd'hui. On peut travailler les mêmes thèmes et pourtant on racontera une autre histoire.
Tout à fait.
Alors, écrire pour vous, c'est venu comment? Est-ce que c'est venu très vite ou est-ce qu'il y a eu un déclenchement, quelque chose qui s'est produit, qui fait que vous êtes mis à écrire?
L'élément déclencheur, c'est mon compagnon, je l'avoue. Pour tout vous expliquer, j'ai commencé par faire la généalogie pour mes parents, enfin pour mon père, ma mère. Je suis remontée des deux côtés jusqu'en 1750, hommes et femmes de chaque côté. Pour la plupart, j'en ai trouvé beaucoup et tous les soirs, je racontais mes recherches à mon compagnon. Et bon, qui appréciait également que je lui raconte. Et en faisant la généalogie, disons que j'imaginais à chaque fois l'environnement, enfin comment, ce qui se passait pour eux, pour mes ancêtres, pour les personnes qu'ils côtoyaient. Et il me dit, pourquoi tu n'écrirais pas une histoire? Alors j'ai un livre. Alors j'ai écrit un premier livre que j'ai appelé Notre Histoire, enfin qui est entre nous, où je raconte l'histoire de tous mes ancêtres et tout ça. Puis il m'a dit, écoute, moi je m'attendais à autre chose, je voudrais que tu peux faire mieux, tu peux raconter une vraie histoire.
Une fiction, vous voulez dire.
Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai écrit un premier roman paysan. Et c'était tous les soirs. Je racontais ce que j'avais écrit dans la journée. J'écrivais 2 heures par jour. Bon, ça durait pas très longtemps, s'écrire 2 heures par jour. Vous doutez que le soir, ça fait pas beaucoup à lire. Mais disons qu'on en discutait, tout ça. Et j'ai continué.
Donc l'homme de votre vie, qui est présent, là, il faut le dire, hein, si j'ai bien
tout
compris.
Tout à fait, oui, vous bon, avez bien compris.
Voilà, il a beaucoup participé, il vous a aidé. Alors, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, en préambule, hein, hors antenne, c'est que effectivement, quand on écrit ou quand on crée, que ce soit de la musique ou que ce soit de la peinture, de la sculpture, ce qu'on voudra, quoi. C'est-à-dire quand on sort quelque chose de soi-même, c'est vrai que c'est on enfante. Quelque part, et là, on est très fragile. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais bon, tous les auteurs que j'ai pu rencontrer, je sais qu'ils sont un peu comme ça, et moi, je le suis en premier. On a besoin d'avoir un écho à ce que l'on on écrit, et si possible, positif. C'est-à-dire qu'il faut être encouragé. Quand je dis positif, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de louanges, forcément, et au contraire, je dirais qu'on a envie aussi de critiques, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Mais on a besoin, justement, que la personne ou les personnes qui sont autour de vous vous encouragent.
C'est vrai.
Il me semble. Alors, je ne sais pas, vous écrivez facilement il faut travailler, vraiment?
Ah non, j'écris facilement, je dois l'avouer. Je peux écrire du matin au soir, je suis assez intarissable.
Et alors, qui fait la cuisine pendant ce temps-là?
C'est mon homme. il est parfait.
Alors, s'il est parfait, il ne faut pas en parler. Hein, parce que vous allez vous le faire voler. Il vous aide considérablement puisqu'il accepte aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous puissiez consacrer du temps donc à ce qui est fondamental pour vous, c'est l'écriture.
Tout à fait.
Mais alors, elle est arrivée quand même tardivement. Parce qu'en fait, vous auriez pu commencer à écrire à l'adolescence, beaucoup de...
Disons que quand j'étais adolescente, j'ai écrit des poésies.
Oui.
D'ailleurs, avec beaucoup de fautes, parce que j'étais nulle en français, je l'avoue. Et je brûlais le tour de la feuille pour faire comme si c'était un parchemin, et je l'affichais au-dessus de mon bureau. Et mon père, qui aimait bien que ce soit bien écrit et tout ça, il me disait « Ah ben non, quand même, tu peux pas laisser ça. » Donc bon, j'ai commencé par des petites poésies, j'ai écrit mon journal intime, comme on peut dire, d'adolescent, etc. Oui. J'écrivais tous les jours pour ça. Mais vraiment écrire un livre, je l'avais en tête, mais j'avais pas le temps. Je ne cherchais pas à trouver le temps, quoi. Et depuis qu'on est dans cet havre de paix...
Oui, alors il faut du temps et puis il faut de la construction.
Hein, oui, tout à fait.
Parce que il faut un plan, on part pas comme ça, quoi.
Non, tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y a eu une période de réflexion, comment vous avez pratiqué? C'est intéressant pour nos auditeurs de savoir comment on écrit, quoi.
Oui, bien sûr. Disons, là, c'est seulement, dans ma généalogie, toujours, il y a beaucoup d'actes d'enfants abandonnés, beaucoup d'actes de baptême d'enfants abandonnés. Et donc... c'était plus fort que moi, il fallait que j'imagine qu'est-ce qui avait pu se passer, pourquoi il avait été abandonné. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de mettre dans mon livre.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Oui, voilà. Donc, si vous voulez, j'ai un plan au départ, j'ai un fil conducteur.
Oui.
Et souvent, d'ailleurs, c'est bizarre comme j'écris, je ne sais pas vous, j'aimerais savoir éventuellement. J'écris le début, il sort, après j'écris la fin. Et j'ai des moments forts que j'écris au milieu, et après j'ai le tout, si vous voulez. Je ne sais pas comment dire, un fil conducteur.
D'accord. Oui, alors bon, moi j'ai écrit un peu sans doute différemment. Moi je veux dire, chaque fois que j'écris un roman, je connais la fin.
Moi aussi.
Il n'y a que la fin qui m'intéresse au départ, et puis après, bon, je vais peut-être d'ailleurs bifurquer en cours de route. Hein. Je ne suis pas, j'ai un plan que je ne suis pas.
Pas rigide.
Voilà, ouais. Tout dépend. Et puis tout dépend des états d'âme que l'on peut avoir, et puis des informations que l'on reçoit, etc. Ça dépend de ce qu'on écrit aussi.
Oui, bon. Tout à fait.
Alors, vous avez commencé à écrire poussé et puis encouragé par votre compagnon.
Oui.
Ça, c'est une chose. Et ensuite, vous avez décidé donc de publier, parce que on peut écrire pour soi, c'est une bonne chose. On peut partager ce que vous avez dit d'ailleurs pour votre premier écrit, si j'ai bien compris. Vous avez raconté un peu la saga familiale.
Oui, hein, tout à fait.
C'est ça.
Tout à
et
fait.
Donc ça, c'était à usage, je dirais, familial. Interne. Mmh. Mais après, donc, encouragé par votre mari qui vous dit ben non, il faut aller au-delà, il faut écrire de la fiction, hein, inventer une histoire, et une belle histoire si c'est possible. Donc vous vous lancez dans un livre, dans un roman. Le vrai problème qui se pose à partir de ce moment-là, c'est qu'il n'existe que s'il est publié. Parce que écrire un roman, c'est pour avoir des lecteurs.
Tout à fait. Hein,
on peut pas se contenter d'en avoir un seul quand même.
C'est voilà. Vrai.
Alors on reviendra sur ce travail-là. On va écouter une première chanson que vous avez choisie, et puis nous reprendrons notre petite discussion tout à l'heure.
Entendu. Merci.
Nous revoici en compagnie de Françoise Rivière pour son roman « Si seulement » qui vient de paraître il y a quelque temps aux éditions Percé. Alors, je voudrais vous poser une question. Le problème de la publication, on le sait, est compliqué dans notre société aujourd'hui. D'abord, pour plusieurs raisons, c'est que le nombre de lecteurs n'a pas augmenté malgré que la population, elle, est augmentée depuis les années 60, par exemple. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Il y a beaucoup de gens qui écrivent et les genres littéraires ont été terriblement augmentés, démultipliés depuis une cinquantaine d'années, on peut dire. Et récemment, on s'aperçoit que les faits divers participent beaucoup à l'écriture, non pas de spécialement de romans, mais de mémoires, de souvenirs, etc. Si bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a vécu une situation particulière va écrire un bouquin. Souvent, ce ne sera pas la personne qui l'écrit, d'ailleurs. Elle aura ce qu'on appelle un nègre, hein, et ça n'est pas péjoratif quand je dis cela, mais c'est souvent un journaliste ou un homme ou une femme qui savent écrire, qui écrit pour la personne. Alors, vous, c'est différent puisque vous êtes lancé dans la fiction et c'est un produit qui passe du producteur au consommateur directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est vous qui l'avez écrit. Ça, c'est déjà une chose. Alors, pour la publication, comment avez-vous fait pour être publié? Parce que ça, on sait que trouver des éditeurs, c'est extrêmement difficile.
Ben disons que, ben, toujours pareil, mon compagnon m'a dit, écoute, c'est trop beau, faut que tu le fasses éditer, etc., faut essayer, Je dis, ben non, je dis quand même, il dit, si, vas-y. Donc j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, à trois maisons d'édition d'ailleurs, je reconnais, et j'ai reçu deux contrats positifs. Je peux vous dire que j'ai pleuré. Mmh. J'ai pleuré à chaque fois. Le deuxième, quand il m'a téléphoné, j'ai dit, c'est pas possible. Je dis, donc je me suis fait donc éditer, j'ai choisi Percé, peut-être le nom, édition Percé était prometteur, dirons-nous.
Oui, et quelles sont les conditions, sont difficiles, sont sur le plan économique, comment ça se passe avec les éditions Percé?
Alors, c'est à compte d'auteur, c'est à compte d'auteur, donc il y a une participation qui m'a été demandée.
Oui.
Il m'a été demandé 3000 euros. Oui, pour faire un compte d'auteur.
Oui,
c'est donc un peu... c'est vrai que c'est un gros budget, il faut bien le dire, mais bon, j'ai eu envie d'essayer.
Oui, non, mais vous avez bien fait. Enfin, je pense que c'est à peu près d'ailleurs le tarif des maisons d'édition de ce genre. Sinon, si vous envoyez à toutes les grandes maisons, ils reçoivent 3 ou 4 000 ouvrages par mois, vous avez peu de chances d'être sélectionné. Bon, l'important, c'est déjà d'avoir mis le pied à l'étrier. Pour dire Percé, vous voyez, il communique quand même avec les radios, il communique avec moi, donc c'est pas la première fois que je reçois quelqu'un qui est... Donc ils font quelque chose pour essayer justement de promouvoir. Mais ça ne suffit pas, c'est l'auteur qui doit beaucoup faire de choses. Alors, est-ce que vous participez à des salons, à des... Qu'est-ce que vous allez faire là pour le faire vivre un peu?
Pour l'instant, je vais vous dire qu'on a demandé à notre fille de retrouver, par exemple, l'église, parce que la couverture, c'est une porte d'église qu'on trouve très belle, et elle l'a retrouvée. Elle nous a dit, je suis la fumeuse d'Internet. Donc, c'est une petite église qui se trouve en Corrèze, à Ligignac, exactement. C'est l'église Saint-Barthélemy. Donc, le mois prochain, on a l'intention d'y aller sur place, de visiter. On a pris une chambre d'hôte dans un château. Mmh. Et on va donc aller voir sur place et me faire connaître dans les librairies autour, etc.
Oui, alors vous pouvez faire aussi une chose qui est intéressante, c'est voir avec la collectivité, par exemple, si vous ne pourriez pas faire une rencontre. Oui. Parce que ça peut vous apporter, évidemment, un peu plus de lecteurs ou de lectrices.
Les éditions Percé m'ont proposé, parce que j'ai dit, je vais aller visiter sur place l'église, prendre un petit peu, mais après de faire une série de dédicaces dans les librairies qui sont justement autour, en Corrèze, etc.
Alors, ce que vous pourriez faire aussi, il y a des petits salons du livre qui se tiennent un peu dans les petites villes de la Dordogne et puis environnantes, puisque vous n'êtes pas loin de la Corrèze.
J'aimerais bien, parce que j'ai demandé, mais bon, pour l'instant, salon du livre, disons qu'on m'en a proposé un à La Rochelle.
Donc, c'est loin.
Personnellement, j'ai pas voulu et j'ai demandé justement au salon du livre de Brive. Là, elle m'a dit que c'était pas possible parce qu'au niveau de la maison d'édition, ça leur coûte trop cher. Ils peuvent pas se le permettre. C'est pas une maison d'édition suffisamment importante au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant, s'il y a des petits salons du livre, j'ignore.
Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site du Conseil général de la Dordogne, sur les services culturels. Et là, vous aurez la liste de tous les salons qui se tiennent.
Ah, parce que là, ça m'intéresse.
Et là, vous pouvez prendre donc un contact avec ces salons-là. Habituellement, c'est gratuit. Hein. Vous trouvez donc avec d'autres écrivains, bien sûr. Oui. Et puis, vous présentez vos livres et vous verrez, il y a toujours des gens qui achètent, qui sont intéressés.
D'accord.
Bon, parce que ça, c'est le moyen
de
faire connaître.
Je vous remercie.
Non, mais bon, c'est, si on peut vous aider de cette manière-là. En ce qui concerne Si seulement, c'est une belle histoire. Hein, je veux dire, c'est une belle histoire. Au départ, c'est un drame. C'est un drame. Et ensuite, je dirais, c'est un ouvrage très romantique. Moi, j'ai trouvé très romantique. Ça, c'est une belle histoire d'amour maternel. Et puis d'amour tout court. Hein,
oui.
Tout cela. Alors, vous me dites, vous êtes inspiré de ce qui se produisait au XVIIIe siècle. Ça, c'est vrai. On sait que dans ces périodes-là, tout le monde, j'exagère, mais les gens qui étaient en difficulté, qui avaient un enfant, qui ne pouvaient pas l'élever, eh bien, l'abandonnaient habituellement. Et puis, des gens très illustres les abandonnaient. Je pense à Jean-Jacques Rousseau qui a abandonné 3 de ses enfants. Hein. C'était quelque chose qui était assez courant. Bon, et surtout, pour les gens du petit peuple, les femmes qui se retrouvaient enceintes et qui étaient dans des grosses difficultés. Mais vous n'êtes pas tout à fait dans cette situation. Vous avez une jeune fille qui s'appelle Élise. Elle est amoureuse d'un homme qui s'appelle Richard. Et elle fait ce qu'on appelle le Pâques avant les rameaux, quoi, chez nous, hein, en Dordogne. C'est-à-dire qu'elle a des relations, elle est très amoureuse de cet homme et vice-versa. Et il lui fait un enfant avant le mariage. Ils doivent se marier, il lui a promis le mariage, mais il meurt. Hein, ça part de là. Donc on est presque dans une tragédie là.
Tout à fait. Hein,
à ce niveau-là. Et là, vous allez prendre cette Élise, évidemment, est très malheureuse parce que elle va être obligée d'abandonner son enfant. Et son enfant, elle abandonne ce que l'on fait habituellement dans cette période de l'histoire, soit devant une église, soit devant un monastère, soit devant un couvent. Parce que on sait qu'il sera recueilli. Oui. Et que généralement, les religieux ou les prêtres de cette époque vont se débrouiller pour trouver donc un lieu d'accueil à cet enfant. C'est comme ça que ça démarre.
Hein? Tout à fait.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là ont existé il n'y a pas si longtemps que ça, et chez des gens célèbres. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Monsieur Bébéard, qui a été le grand président directeur général d'AXA, la grande société d'assurance.
AXA, oui.
L'un de ses frères était chirurgien à Bordeaux. Et son père était principal du collège d'Aimé, en Dordogne, dans le sud de la Dordogne. Et pourquoi s'appelle-t-il Bébéard ? Parce que son grand-père ou arrière-grand-père a été trouvé devant la porte d'une église qui s'appelle Ar, en Dordogne.
D'accord.
Et on lui a donné comme nom tout simple Bébéard. Voilà pourquoi il s'appelait Bébéard. Alors vous voyez, ce sont des choses qui se pratiquaient jusqu'à la fin du 19e siècle,
on peut dire.
Surtout qu'il y a une opprobre incroyable des filles mères. Moi, je me souviens dans ma campagne, quand j'étais gamin, il y avait une charmante jeune fille que j'adorais. Moi, j'avais 5 ou 6 ans et elle avait 15 ou 16. Eh bien, un jour, elle s'est fait faire un enfant et elle a été rejetée.
Tout à fait.
Par l'ensemble. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Si elle n'abandonne pas l'enfant, elle sera rejetée par sa famille. Et pourtant, elle n'appartient pas aux classes défavorisées.
Tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où elle vient, cette Élise, et qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous un peu.
Ben, disons que Élise, bon, donc ses parents étaient notables. Et, excusez-moi, j'ai le tract.
Non, allez-y. Donc, ses parents sont notables, ce sont des petits bourgeois.
Tout à fait.
Hein, des petits bourgeois, ils ont une fille, et ils pensent que leur fille, elle ne peut pas, évidemment, avoir ces travers-là, c'est-à-dire se faire un enfant. Bon, ils ne savent pas, d'ailleurs, qu'elle était forcément liée de la manière forte que vous décrivez, avec ce Richard.
Tout à fait.
Et Richard lui-même appartient à une famille aisée.
Également, oui, son père est notaire, tout à fait. Donc ils s'aiment tous les deux, ils se promettent, mariage à ce moment-là. Et hélas, il a un accident. Et donc le mariage ne peut pas avoir lieu, et dans ce cas-là.
Oui, elle cache sa naissance, la naissance de l'enfant, sa grossesse.
Oui, tout à fait. Elle cache. D'ailleurs, pour ça, elle se fait des robes charmantes, etc., mais pour que ses parents ne s'aperçoivent de rien. Et...
Bien sûr. Et elle prend son bébé une fois qu'il est né.
Tout à fait.
Et elle le dépose avec un petit mot.
Avec un petit mot, une lettre.
Une lettre.
Parce qu'elle espère pouvoir le retrouver par la suite.
Et elle adresse à qui cette lettre ?
À M. le curé.
Oui, qu'elle ne connaît pas.
Qu'elle ne connaît pas. Mais simplement, elle a entendu que dans ce village, il se chargeait de placer les enfants au mieux. Et donc, c'est elle qui avait été dans tous les villages aux alentours pour pouvoir trouver une bonne place pour son enfant.
Voilà. Alors, une deuxième histoire se crée. Hein, on est dans un, c'est assez amusant parce que lorsqu'elle va se lancer à la recherche de son enfant, ça va pas se passer évidemment. J'abrège et puis je vais pas tout raconter. Mais il y a une autre personne qui cherche aussi son fils.
Hein, oui.
Oui. Qui lui se trouve chez des aubergistes.
Tout à fait.
Si je me souviens bien.
Hein. Oui, tout à fait.
Alors ça, c'est intéressant de voir les deux manières, les deux procédés. Et comment ça se passera ?
Des vies différentes, tout à fait.
Voilà, des vies différentes. Et puis, vous appuyez sur quelque chose qui est extrêmement moderne, moi qui m'a intéressé, c'est que en fait, on en est aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions entre ce qu'on appelle les parents naturels et les parents adoptifs ou ceux qui ont utilisé la procréation via l'assimilation artificielle, pour simplifier les choses. Bon. Et donc, ces mères, elles veulent récupérer leur enfant, mais l'enfant a été placé chez quelqu'un qui peut avoir considéré que cet enfant, c'est le sien.
Oui.
Et d'ailleurs, dans notre histoire, là, c'est bien ce qui va se produire.
Oui,
alors,
tout à fait.
Juste un petit mot là-dessus. Cet enfant va se retrouver chez qui ?
Donc, cet enfant va se retrouver chez des châtelains, en fait.
Il se retrouve chez des châtelains qui,
je peux raconter,
sans
dévoiler vraiment.
Sans dévoiler, voilà, allez-y.
C'est-à-dire qu'en fait, cet enfant donc, va arriver dans cette famille à un moment dramatique de leur vie, quoi. Parce que cette femme, la mère, la châtelaine, elle a eu des jumeaux et l'un d'eux est décédé. Et donc, M. le curé donc, lui amène cet enfant.
On arrête là, parce qu'on va écouter un peu de musique pour respirer. Vous allez respirer à nouveau. Et vous avez choisi, je crois, Notre-Dame de Paris. Nous allons écouter une chanson donc, de la comédie musicale.
Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame qu'elle et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda.
Eh Esmeralda, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, voilà de la littérature hein, qui reste d'actualité, on pourrait dire, tant il y a de force dans cette écriture et dans ces histoires. Alors, vous aussi, dans votre ouvrage, Françoise Rivière, si seulement, il y a une force qui est significative, cette puissance de l'amour maternel pour retrouver cet enfant. Donc, Élise va être placée dans différentes familles. Elle va jouer quel rôle? Le rôle qui est peut-être le plus difficile, c'est-à-dire s'occuper des enfants des autres,
oui.
Alors qu'on n'a plus le sien.
Tout à fait, c'est hein? vrai. C'est vrai. C'est elle... vrai. Le...
Oui, elle est... et alors, la chance qu'elle a quand même, c'est qu'elle va tomber à chaque fois chez des gens bien, entre guillemets. Je sais pas.
Tout à fait. C'est vrai.
Bon, d'abord, je crois que c'est une personne très sensible, comme, oui. comme l'auteur, là.
Oui, tout à fait.
Elle est très sensible, elle est très à l'écoute.
Très à l'écoute, oui.
Voilà. Et elle reçoit. C'est-à-dire qu'on est dans. C'est assez fort, c'est assez judéo-chrétien ce que vous écrivez, en définitive. Je donne, je reçois. Est-ce que c'est pas un peu ça?
C'est tout à fait, oui. C'est voilà. vrai, vous avez raison.
Alors, elle va rencontrer donc un grand nombre de personnes qui vont l'aider malgré quand même au départ des réticences du curé.
Tout
puisque
à fait.
Puisque le principal protagoniste de cette histoire, celui qui sait, c'est le curé.
Tout à fait. Hein? C'est vrai. C'est
alors,
vrai.
Alors qu'est-ce qui se passe au départ? Comment va-t-elle faire pour contourner tout cela?
Ben, disons qu'elle va faire des rencontres, je dirais, d'une personne aussi, Madame Fortuny également, qui va beaucoup l'aider.
Oui, elle va fouiner un
elle
peu.
Elle va fouiner, tout hein, à fait.
Au départ, ce personnage est un personnage qui est un peu, je dirais, inquiétant.
Tout à fait.
On se dit, mais elle est l'oreille de la communauté villageoise,
tout
c'est
à
ça
fait.
Elle,
c'est
sait
vrai.
Elle sait beaucoup de choses, oui. Elle épie. Et elle va devenir l'amie, on peut dire, d'Élise.
Oui, tout à fait. Elle va devenir l'amie d'Élise, tout à fait. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette dame, elle-même, était une enfant abandonnée. Et donc, c'est pour ça que ça l'interpelle, qu'elle veut aider les personnes, les mamans, à retrouver leur enfant. Donc, oui.
Et puis, il y a une amie aussi d'Élise qui va jouer un rôle important.
Oui. Il y en a plusieurs, il y a Marie.
Oui.
Il y a Marie et Hortense également.
Oui.
Enfin, Hortense, ça sera plus de passage, mais Marie, elle est là dès le départ. C'est l'amie avec elle. Elles étaient là au début, quand l'enfant est né. C'est elle qui l'a accompagnée à l'église pour déposer l'enfant. C'est elle qui avait récupéré la calèche chez ses parents, qui a été quelque part disputée par ses parents parce que les parents pensaient que les deux jeunes filles était parti pour voir des galants.
Oui, tout à fait. Oui, à cette époque, c'était pas bien
c'était
vu.
C'était très mal vu, surtout qu'ils étaient jeunes, évidemment.
Oui.
Hein, ils avaient enfin, 17 ans, quoi, à cette époque, 16-17 ans.
Oui, et d'ailleurs, pendant un certain temps, les parents ne veulent pas que leur fille revoie Élise.
Tout à fait, hein? Tout à fait. Et elles ont une très grande amitié, donc elles correspondent par courrier, malgré tout. Mais, et Marie, donc, parce que cet enfant était abandonné, dans le village où Marie habitait lors des vacances, etc. Et donc, elle retourne dans le village pour essayer de retrouver l'enfant. Et elle va voir Monsieur le curé, Marie. Et elle informe Élise des nouveautés. C'est elle qui lui apprend que, justement, il y a un petit enfant, Richard, qui a été trouvé et placé dans une auberge. Et que peut-être, c'est son fils.
Oui. Et là, bon, on ne va pas...
En dire plus, parce qu'on ne va pas tout dévoiler
oui,
non plus.
Oui. Simplement, Élise, évidemment, retrouvera son fils.
Oui.
Va retrouver son fils. Et par un concours de circonstances, je dirais qu'elle va bénéficier d'un miracle. Hein.
Tout à fait, quelque part.
Oui, je dis rien. Hein.
Oui.
Je dis rien d'autre.
Oui.
Mais effectivement, sa bonté, sa générosité va être payée de retour.
Tout à fait. Hein,
c'est ce que on voit dans cette affaire. Donc avec un dénouement qui est un dénouement extraordinaire. Quoi. C'est une belle histoire. Quand je disais que c'est une belle histoire romantique, une belle histoire d'amour, c'est-à-dire que de la tragédie, on va aller vers plutôt une, un réalisme du bonheur, enfin une vie méritée hein, aussi par cette Élise. Elle mérite aussi cela parce que c'est quelqu'un de bien.
Oui, tout à fait.
Donc, moi, ce que j'invite, évidemment, c'est de lire l'ouvrage. Alors, la question qu'on peut se poser, parce qu'on ne veut pas en dire plus sur le livre, mais comment peut-on se le procurer? Est-ce qu'on peut le commander, par exemple, directement chez l'éditeur?
Oui, tout à fait.
Aux éditions Percé. Et ça, on va le trouver sur Internet.
Sur Internet, vous le trouvez aux éditions Percé, évidemment. Oui. À la FNAC également, chez toute librairie sur Internet.
D'accord.
Sur beaucoup de librairies.
D'accord. Éventuellement, vous, on peut avoir une dédicace quand comment ça se passe? Parce que les gens sont souvent attachés aussi à ça.
Ah ben pour l'instant, je n'en ai pas prévu, mais ça serait avec grand plaisir si que je pourrais faire une dédicace à un endroit ou à un autre.
Oui.
Bien sûr. Pour l'instant, je n'en ai pas de programmé.
D'accord.
Mais dès que j'en aurai. Faites-le
et faites-nous le savoir parce que ce que l'on pourra faire à la radio ici, on l'annoncera.
Ah, c'est gentil, avec plaisir.
Voilà, ça on le fait systématiquement si on a des éléments.
D'accord.
Vous n'hésitez pas de nous envoyer des informations et puis les envoyer chez moi directement aussi,
d'accord.
C'est pareil. Hein.
D'accord.
Et puis on fera le relais et si vous n'êtes pas trop loin, on viendra vous voir. Moi, je viendrai vous voir.
C'est gentil.
Voilà. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir maintenant? Parce que vous avez écrit ce roman, vous avez un Cerbère avec vous, c'est votre compagnon qui vous oblige à écrire, parce qu'il voudrait que... Hein? Alors, vous avez écrit d'autres romans?
Oui, j'en ai écrit beaucoup d'autres derrière.
Oui.
J'ai écrit plusieurs livres, donc trois autres qui se passent, donc il y a six seulement qui se passent dans les années 1950. Après Jeanne, qui se passe dans la même période, et Blanche également.
Donc, vous êtes attaché au côté historique, un retour sur le passé, là?
Pour cela, oui. Et au jour d'aujourd'hui, j'en écris d'autres, autant de maintenant. J'en écris trois autres qui datent de maintenant, de cette époque. Un premier qui s'appelle La Maison Hantée, bien que ça n'a rien à voir avec une maison hantée. Ce sont une histoire plutôt de... Comment dire? Je demanderais bien à mon compagnon qui est à côté, qui pourrait m'aider, mais il ne voudra pas le faire.
Non, mais bon.
Mais je ne veux pas tout dévoiler, j'ai réécrit depuis.
Vous écrivez aussi du contemporain, on peut dire.
Voilà, tout
alors,
à fait.
Alors, est-ce que vous les situez aussi dans une... Par exemple, en Dordogne, est-ce que vous...
Oui,
parce que c'est important, ça, hein, c'est intéressant.
Maintenant, il se passe en Dordogne.
Oui, parce que là, vous pouvez trouver aussi peut-être des éditeurs de la
de
région.
La région.
De
oui.
la région, parce que, bon, les gens sont intéressés par ce qui se passe dans la région. Hein.
Oui, d'accord. Hein.
Bon, moi, je l'ai vu avec notamment l'Anglaise du Drô, puisque le Drô est une petite rivière
tout
qui coule
fait.
Dans le sud. Hein. Donc, vous avez beaucoup de travail en perspective.
Oui. Hein.
Et j'espère que ça va bien fonctionner pour vous.
C'est gentil.
En tout cas, je conseille aux personnes qui aiment les histoires humaines où l'amour et l'amitié sont en exergue, de lire... votre roman « Si seulement », écrit par Françoise Rivière, que je viens de recevoir avec grand plaisir dans l'émission « Passion d'écrire, plaisir de lire ». Et cet ouvrage est édité par les éditions Percé. Françoise, merci d'être venue jusqu'à nous. Au revoir à toutes et à tous.
Merci.
C'était votre rendez-vous littéraire « Passion d'écrire, plaisir de lire », présenté par Jean-Claude Delaire sur RVB.